en gloire. Et moi, je pense qu'on est privilégié parce que ceux qui sont ici ce matin, je sais que vous êtes des personnes sérieuses. C'est pas tout le monde qui veut braver la tempête. Il y a bien des gens qui vont regarder par la fenêtre et dire, hey, il y a bien trop de neige, je vais rester couché. Ça va être une bonne journée pour rester en pyjama jusqu'à midi et regarder la télévision ou faire autre chose. Mais vous êtes ici, pourquoi? Parce que vous aimez le Seigneur et parce que vous avez un cœur pour faire la volonté de Dieu. Et c'est vraiment bon. Donc, on devrait avoir une onction spéciale même ce matin, parce que ceux qui sont ici sont les personnes sérieuses qui veulent et qui ont soif et qui ont faim de Dieu. Amen. Mais avant de recevoir la parole ce matin, on va juste faire une déclaration qu'on aime faire ici. On va prendre notre Bible. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, il y a une feuille à l'intérieur de votre bulletin avec presque tous les versets de la parole de Dieu. Et on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole vivante de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la semaine passée, on a commencé à parler de quelque chose de bien important, de comment prendre notre place dans l'histoire. Et on a parlé du fait que la fin de toutes choses est proche. On a parlé du fait que le Seigneur Jésus revient bientôt, qu'il y a des choses qui s'en viennent sur la terre, qui ont été prophétisées il y a des milliers d'années et qui commencent à on voit la réalisation de ces prophéties. On voit que vraiment, on est en train de voir la réalisation et l'accomplissement du plan de Dieu pour la race humaine ici sur la terre. Et c'est un temps merveilleux. On a lu en 1 Pierre chapitre 4, verset 7, que la fin de toutes choses est proche, et il a dit de faire trois choses. Soyez donc sobres pour vaquer à la prière. Amen. Il a dit aussi, avant toute chose, d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Et il a dit aussi de mettre au service des autres le don que vous avez reçu de Dieu. Donc on a vu ces trois choses, qu'il faut prier comme jamais auparavant, il faut aimer comme jamais auparavant et il faut servir le Seigneur comme jamais auparavant. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de faire un autre message. C'est sûr que mon désir, je voulais que tout le monde soit là ce matin, parce que c'est un message pour tout le monde. Mais on va quand même voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire et qu'est-ce qu'il veut dire à nous. Il y a des choses que j'ai déjà partagées avec plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous, vous avez vu ces notes même, pas au complet, mais une partie, lors d'une réunion pour les ouvriers, des leaders de l'Église. Mais il y a des choses que j'ai vraiment à cœur de partager, et je pense que ça va nous faire du bien. Mais on va aller dans votre Bible, à Actes chapitre 17. On parle de comment prendre notre place dans l'histoire. Actes chapitre 17. Et on va commencer, moi je vais lire, il y a quelques versets qui ne sont pas dans les notes, mais on va finir à verset 6, ça c'est dans vos notes. Mais en Actes chapitre 17, verset 1, c'est marqué, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant trois sabbats et discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils se cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Donc, je veux juste souligner quelque chose ici. On voit l'apôtre Paul, on voit Silas qui sont allés faire la volonté de Dieu pour prêcher l'Évangile. Et on voit plusieurs choses qu'il faut remarquer. Quelques-uns ont reçu la parole de Dieu avec joie. Quelques-uns ont été sauvés et leurs vies ont été transformées. Mais ce n'est pas tout le monde qui était content. Vous êtes d'accord? Il y a d'autres personnes qui ont dit, écoute, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus ici et ils voulaient les mettre en prison. C'est sérieux, vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir et de regarder. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit une église, les enfants de Dieu qui sont en feu pour Dieu, qui font la volonté de Dieu et les vies sont en train d'être transformées. Et en fait, qu'est-ce que le monde, c'est quoi le témoignage du monde à propos de l'église, à propos de ceux qui connaissaient Jésus? Le témoignage du monde, c'est que ceux qui ont bouleversé le monde sont venus ici. C'est quoi le témoignage? Qu'est-ce que le monde dit à propos de nous? J'aimerais que le monde dise, même les gens à Drummondville, j'aimerais qu'ils disent, ceux qui ont bouleversé Drummondville sont encore ici. Amen? Est-ce que c'est ça que vous voulez aussi? J'aimerais que tout le monde nous connaisse. J'aimerais avoir une réputation avec ceux qui ne connaissent même pas encore le Seigneur Jésus. J'aimerais qu'à chaque place la plante de notre pied foule, que la terre tremble dans ce sens. Amen. Pas juste la terre physique, mais que le monde des ténèbres devrait trembler devant nous. Ça me fait penser, il y avait une fois, des personnes qui ont vu les apôtres chasser les démons. Et ils pensaient que c'était bien intéressant. C'est du fun, hein? On voit les apôtres, ils imposent les mains sur les malades, ils sont guéris, ils chassent les démons et les démoniaques sont délivrés. Donc, il y avait sept frères qui étaient le fils d'un homme qui s'appelait Steva, qui ont vu un homme démoniaque et qui ont dit, « Hey, on va essayer la même chose. » Et ils ont commencé, ils ont essayé de chasser les démons de cet homme démoniaque. Il a dit, les sept frères ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont essayé de chasser les démons en disant, au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les démons qui étaient à l'intérieur de cet homme, qui étaient possédés, ont dit, on connaît Jésus et nous connaissons Paul, mais qui êtes-vous? Amen. Et là, ils ont sauté même, ces démons ont sauté sur les sept fils de Séva, ils ont déchiré les vêtements, ils se sont sauvés en saignant même, la Bible dit. Ça, je raconte pas des histoires qu'on entend à la télévision, ça c'est des choses qui sont dans votre Bible, vous pouvez lire cela vous-même dans les actes des apôtres. Mais qu'est-ce que je veux remarquer, c'est que, et je veux souligner, c'est le fait que, même les démons, même l'enfer connaissaient pas juste Jésus, mais connaissaient Paul. Mais laisse-moi vous poser la question. Est-ce que les démons vous connaissent aujourd'hui? Est-ce que vous êtes une menace pour le royaume de Dieu aujourd'hui? Pour le royaume des ténèbres, pardon. Pas pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce que vous êtes une menace pour le royaume de Dieu aujourd'hui? Hein? Parce que à chaque jour, tout ce que nous faisons va affecter quelqu'un d'autre, vous savez. Et chaque fois que je prends une décision selon la chair pour faire quelque chose d'égoïste, chaque acte d'égoïsme va faire mal à quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord? Donc, c'est pourquoi on peut se poser la question, est-ce que je suis une menace pour le royaume de Dieu ou est-ce que je suis une menace pour le royaume des ténèbres? Mais moi, j'aimerais être sûr et certain que le diable et les démons connaissent mon nom. Pourquoi? Parce que je suis vraiment quelqu'un qui menace son royaume. À chaque place où je vais, je cause du trouble pour lui. Amen? C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul, avec Silas, et pas juste avec eux, mais avec tous les autres chrétiens. L'église du premier siècle était une église en feu pour Jésus-Christ. Amen? On voit, même en Actes chapitre 8, quand la persécution a commencé contre l'église, en Actes chapitre 8, on voit que Étienne a été lapidé, et qu'à partir de cette journée-là, une grande persécution commençait contre l'Église, et tous les chrétiens qui étaient à Jérusalem ont été dispersés. Et la Bible dit que tous ceux qui ont été dispersés, sauf les apôtres, tout le monde dit sauf les apôtres. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les apôtres, mais en fait, les apôtres ont resté à Jérusalem, mais tous les autres croyants ont été dispersés dans diverses villes, ils sont allés partout, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces choses ne sont pas dans mes notes, mais c'est bon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque place où ils allaient, dans chaque lieu, ils prêchaient le nom de Jésus. À chaque place où ils arrivaient, ils prêchaient le nom de Jésus. Amen? C'est qui prêchait? On va le regarder. Actes chapitre 8. Regardons. Ce n'est pas dans vos notes, ce n'est pas grave. On va y aller quand même en Actes chapitre 8. Alléluia. Nous avons quelque chose à faire ici sur la terre. Amen. Et le plan de Dieu pour votre vie personnelle, le plan de Dieu pour cette Église, ne va pas s'accomplir automatiquement. Ça va prendre une collaboration, une coopération. Chaque membre de la famille de Dieu doit faire sa part. Nous avons tous besoin d'agir selon la puissance du Saint-Esprit. Donc, on va juste lire ici en Actes chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il enrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, c'est qui est allé de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole? Qui, selon ce passage-là, c'est qui est allé annoncer la bonne nouvelle? Tous, sauf les apôtres. Mais aujourd'hui, dans l'Église, souvent, c'est l'inverse. Tout le monde, amen, on pourrait dire les apôtres, tout le monde, sauf les membres des Églises, amen, c'est-à-dire que les pasteurs ou les évangélistes, ceux qui sont appelés au ministère, c'est eux qui vont faire du ministère. C'est eux qui vont aller de lieu en lieu pour témoigner. C'est le pasteur qui va prêcher. C'est les évangélistes qui vont opérer des miracles. Mais selon la parole de Dieu, c'est supposé d'être l'inverse. Amen. En fait, la Bible dit en Éphésiens chapitre 4 que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, les docteurs sont donnés à l'Église. Pourquoi? Pour former, pour équiper les saints pour faire l'œuvre du ministère. Amen. C'est les saints, c'est les membres de l'Église qui sont supposés de faire l'œuvre de l'Église. Amen? Est-ce que vous êtes là? Mais souvent, c'est l'inverse. On va juste faire peut-être une démonstration ce matin. OK? J'ai besoin de 5 personnes qui sont bien en forme ce matin. Est-ce qu'il y a 5 personnes? Hein? Oh, donne-moi juste 3, parce qu'on est moins nombreux ce matin. 3 personnes. José vient avec lui. Oui? Ouais, quelqu'un d'autre? Annie vient-en. Yeah. Ouais, parce que je veux sauver un peu de temps ici. Là, voici qu'est-ce qui se passe. Hein? On va dire que ça, c'est les membres d'une église. Moi, je suis le pasteur d'une église, OK? Et on va faire l'œuvre du ministère. C'est quoi la plus grande œuvre qu'on peut faire dans une église? C'est d'aller chercher les âmes, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais demander à chacun de vous d'aller chercher une âme, OK? Et de le ramener ici, en avant avec vous, OK? Et moi, je vais faire la même chose. Cherche n'importe qui et sans leur parler, juste cherche quelqu'un et l'amène, OK? Moi aussi, Tania, viens ici. Mais garde les personnes à ton côté, là. OK? Allez-y. On a commencé avec 4 personnes dans l'église. OK? Mais si c'était juste moi qui aurait fait du ministère, on serait rendu à 5. Mais On est rendu à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 déjà. Pas pire. OK? Maintenant, on va faire encore. OK? Tout le monde, allez chercher quelqu'un. Tout le monde. Cherchez quelqu'un. Non. Toi, tu ne peux pas. Moi, c'est juste moi.
Oh, you're right. Oh, Jimmy,
c'est juste moi. Non, tu viens avec moi. Oui. Lui, elle. Dans mon équipe, c'est juste moi qui travaille. Mais eux autres. Là, moi, j'ai.
Vas-y.
On a fait juste. Non, approchez-vous des autres. Hein. On va faire une petite division. À l'autre côté de l'utrin, là. Tout le monde là, à l'autre côté de l'utrin. Avancez. Je veux juste vous montrer une chose. Hein. Regarde, moi, j'ai travaillé fort. Deux fois, je suis allé chercher une âme. Deux fois. Regarde, qu'est-ce que... Waouh, l'Église grandit, n'est-ce pas? Oui, mais pas tellement. On ajoute. Mais ce n'est pas la multiplication. Ça, c'est la multiplication. Amen. On va le faire une autre fois, OK? Vous autres, vous, allez-y, mais moi, vous autres, il faut que vous restiez là. Madame Thérien, est-ce que vous pouvez venir? Ou est-ce que c'est correct? C'est trop difficile pour votre genou? Oui. L'autre côté. L'autre côté de l'utrin. Ah non. Regardez mon équipe. Nous sommes 1, 2, 3, 4. Laisse-moi vous dire une chose. Il n'y a personne là dans cette équipe qui a travaillé plus fort que moi. C'est vrai ou non? OK? C'est-à-dire que moi, j'ai fait 3 voyages. Et eux autres, il y a quelques-uns qui ont fait 3, quelques autres qui ont fait juste 2 même. Et quelques autres qui ont fait juste une seule fois pour aller chercher quelqu'un. Mais regarde la croissance, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Hein? Mais le problème, vous pouvez vous asseoir, tout le monde. Est-ce que tout le monde voit? Hein? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une plus grande croissance dans les églises? C'est parce que souvent, tout le monde a la mentalité. On a engagé le pasteur ou le curé, c'est sa job à lui d'aller travailler, gagner les âmes, faire du ministère, prier pour les malades, exactement, oui, prendre les burn-out. Et là, pour moi, de ramasser le même nombre de personnes, j'aurais dû faire au moins quoi donc? 30 voyages. Et laisse-moi vous dire, j'aurais été fatigué, épuisé. L'Église est enfin rendue à 30 de plus. Mais là, c'était bien facile. Moi, j'amène une personne, mais c'est tout le monde qui travaille, tout le monde qui fait sa part. Amen? Et c'est comme ça que l'Église grandit. C'est comme ça qu'on fait la volonté de Dieu. Amen. Tous, sauf les apôtres, ont été dispersés et ils allaient de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient la bonne nouvelle. Hallelujah! Hallelujah! Et on a besoin, vous avez besoin, nous avons besoin de prendre responsabilité pour notre Église. Amen? Il y a trop de gens, je parlais avec quelqu'un même cette semaine, il disait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité que c'est l'Église est au pasteur, c'est à lui. C'est à lui de faire le ministère. S'il y a des problèmes, c'est à lui de s'en occuper. S'il y a des factures à payer, c'est à lui de s'arranger. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est mon Église? Non! L'Église est à Jésus, mais Jésus nous a confié l'Église. Amen. C'est notre Église. Amen. Alléluia. Et c'est quand, et je ne parle pas juste de la vie comblée, dans toutes les assemblées, partout dans le monde, si tout le monde pourrait développer cette mentalité, nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous avons une œuvre à faire. Nous allons faire quelque chose ensemble. Tout le monde dit ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, et comme ça, on aurait beaucoup moins des pasteurs qui font des burn-out, comme Annie a dit. Et l'Église va vraiment grandir. Parce que, comme vous voyez, moi, je ne faisais pas beaucoup de progrès tout seul. Mais ensemble, on fait beaucoup de progrès. Et on peut prendre cet exemple concernant les âmes, concernant les guérisons pour opérer des miracles, pour prier pour les gens. Merveilleux. Moi, j'ai prié pour les gens ce matin, mais savez-vous que vous pouvez tous imposer les mains sur les malades? Amen. Savez-vous que vous pouvez tous prier pour les gens quand on parle des finances? Laisse-moi vous dire, si une personne a besoin d'aller chercher toutes les finances pour faire toute l'œuvre de Dieu, c'est dur, c'est vraiment un fardeau. Amen. Mais si tout le monde le fait ensemble, c'est facile. Amen. Hallelujah. Hallelujah. C'est comme ça que ça marche. Et hallelujah, hallelujah, gloire à Dieu. Donc, on va continuer à lire quelque chose. Actes chapitre 4, verset 13. Hallelujah. Je pense qu'on peut rentrer à la maison maintenant. On aurait appris quelque chose, n'est-ce pas? Mais on ne va pas le faire. On a d'autres choses à voir. Hallelujah. Hallelujah. Donc, en Actes chapitre 4, verset 13, la parole de Dieu, je vais juste le lire vite et puis on va aller en Actes chapitre 2. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça, c'est un autre bon témoignage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le monde disait de l'Église primitive? Ils ont dit, voici les gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Déjà, c'est bon, n'est-ce pas? Mais ils ont dit aussi, voici les gens que de toute évidence ont passé du temps avec Jésus. Ça, c'est notre bon témoignage, n'est-ce pas? Bouleverser le monde pour bouleverser le monde, ça ne donne pas grand-chose, vous êtes d'accord? Il y a assez des choses bouleversantes qui se passent aujourd'hui, dans le mauvais sens. Mais on n'a pas tout simplement besoin de bouleverser le monde, on a besoin de transformer le monde et d'amener le message de paix et de salut et de guérison au monde. Amen. C'est ça, c'est pourquoi nous sommes ici. Ceux qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Ceux qui ont passé du temps avec Jésus. Merveilleux. Pierre était un pêcheur. C'était pas un homme, un érudit qui était instruit. C'est pas quelqu'un qui a fait l'université. C'était un homme qui travaillait avec ses mains. C'est un homme qui était un homme bien terre à terre. Des fois trop terre à terre. Vous êtes d'accord? Hein? Et dit, il parlait avant d'engager sa tête des fois. Et il était juste un homme bien ordinaire. Mais c'est cet homme ordinaire que le Seigneur Jésus a utilisé pour bouleverser le monde. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Ils n'ont pas dit, oh, voici quelqu'un qui a gradué de telle université. Oh, voici quelqu'un qui vient de telle famille. Non, ils ont dit, ils ont reconnu que c'était des personnes qui ont passé du temps avec Jésus. On ne peut pas passer du temps dans la présence de Jésus sans être conforme à son image. Vous êtes d'accord? Est-ce que les gens dans votre entourage, est-ce qu'ils peuvent reconnaître que vous avez passé du temps avec Jésus? Bonne question, n'est-ce pas? Parce que si on veut faire qu'est-ce qu'on vient de démontrer, si on veut faire multiplier l'Église et l'œuvre de Dieu, pas juste à la vie comblée, mais dans toutes les assemblées, si on veut vraiment faire tout ce qu'on a besoin de faire avant que Jésus revienne sur la terre, si on va accomplir ces œuvres, ce n'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. Amen. Et on a besoin de passer du temps avec Jésus. Et donc il y a trois choses qu'on va voir juste vite aujourd'hui. Trois choses qu'on a besoin de faire si nous allons prendre notre place dans l'histoire. Et j'avais à cœur de lire ces choses. Si on veut aller à Actes chapitre 2 et verset 40. Actes chapitre 2 et 40. Alléluia. Moi, j'ai un rêve d'une église où tous les membres de l'église prennent leur place. Pas juste quelques-uns qui prennent leur place, mais tous les membres de l'église prennent leur place. Et ça, c'est vraiment un rêve qui n'est pas irréaliste. C'est une chose qui est, c'est un but, un objectif qui est atteignable. On peut le faire. Même si aujourd'hui, dans la plupart des assemblées, c'est 20% des personnes qui font 80% des travaux. Et ça, c'est une statistique dans presque toutes les églises, n'importe où dans le monde. Vous savez que c'est juste entre 16 et 20% des gens qui payent la dîme dans une église. C'est juste à peu près 20% des personnes qui vont travailler dans les ministères. Mais moi, j'ai un rêve. J'ai une vision pour une église où 100% des personnes font l'œuvre. Amen. On voit, on a vu avec nos yeux qu'est-ce que ça fait, la différence que ça fait quand tout le monde fait leur part. C'est incroyable. Remplir cette salle, ça serait bien facile. On a un but pour la fin de semaine de Pâques. On va avoir un invité spécial et on va expliquer ça dans les semaines à venir. Mais notre but, c'est d'avoir au moins 150 personnes ce dimanche-là. On a eu 120 personnes à Noël. On veut 150 à Pâques. Ça serait bien facile si tout le monde fait leur part. Amen? Vous êtes d'accord? Et ça brûle dans mon cœur et je suis bien content parce que je sais qu'on va le voir. Mais imaginons quel genre d'église nous serions. Et c'est dans vos notes. Si tous les membres avaient une passion contagieuse pour Jésus-Christ. Tout le monde a une passion. Et on voit cela en Actes chapitre 2. Et on ne va pas prendre le temps de tout lire. Mais en verset 46 et 47, nous voyons qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, tout le monde dit chaque jour, à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'était pas juste le dimanche. Ce n'était pas juste les journées où quelqu'un prêchait, mais à tous les jours, quelqu'un était ajouté à l'église. Pourquoi? Parce que tous les membres travaillaient. Amen? Et tous les membres avaient une passion pour Jésus. Est-ce que vous avez une passion pour quelque chose? Il y a des personnes qui ont une passion pour les sports. Et on le sait, parce qu'on rentre chez eux et il y a tout sur les murs, toutes sortes de photos et toutes sortes de les décorations. C'est les sports. À la télévision, c'est quoi qui est sur l'écran? C'est un match de hockey ou quelque chose. On voit, il y a une passion. Il y a d'autres personnes qui ont une passion pour les autos. Et on sait parce qu'ils en parlent. J'ose avec eux et c'est quoi qui sort de leur bouche? Les autos. Moi, je n'ai pas vraiment une grande passion pour les autos. Quelqu'un peut me parler à propos des moteurs et je sais où mettre l'huile, je sais où mettre le gaz et c'est à peu près tout pour moi. Hein? Je sais où mettre la clé aussi, heureusement. Et je sais conduire la plupart des fois. Mais ce n'est pas ma passion. J'ai une passion pour d'autres choses. Hein? Il y a certaines choses que j'ai toujours aimées et je vais en parler. Et j'ai une passion pour ma femme. J'aime ma femme. Et quand on est tombé en amour, laisse-moi vous dire, tout le monde le savait. Personne n'avait besoin de deviner parce que j'en parlais. J'avais sa photo avec moi. Et je ne sais pas comment, mais régulièrement, son nom était sur mes lèvres. Amen. Ça devrait être la même chose pour Jésus. On devrait être tellement en amour avec Jésus que quand quelqu'un nous parle, son nom est sur nos lèvres. Amen. Est-ce que c'est le cas dans votre vie? Si nous voulons faire la volonté de Dieu avant que Jésus vienne, il faut que tout le monde développe une passion contagieuse pour Jésus-Christ. Il y a un verset en Apocalypse que j'aime bien. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jésus a dit à cette église en Asie que il y a bien des choses que tu fais bien, il y a beaucoup de choses que je te félicite pour ces choses, mais il y a une chose que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. L'amour, la passion, le feu est refroidi. Et toi, tu as besoin de te repentir et faire encore les premières œuvres. Qu'est-ce que tu as fait au début? C'est comme un gars qui tombe en amour avec une fille et il va toujours être gentil, ouvrir la porte pour elle, les femmes d'abord. Hein? Il y a souvent des petits cadeaux, les fleurs qui vont être données, peut-être les cartes qui vont être écrites, des petits gestes d'amour, de gentillesse. Mais dès que la femme, mais que l'alliance est mise sur le doigt, souvent, il y a une tendance de laisser l'amour refroidir et 2, 3, 5 ans plus tard, la femme va cogner la porte. Amen. Oh, je pensais que c'était pour l'ouvrir pour moi. Hein? Les fleurs sont flétries depuis longtemps. Elle se pose la question, est-ce qu'il sait toujours écrire? On ne sait pas. Est-ce qu'il a oublié? On laisse ces choses
refroidir. Et dans un mariage, la romance, les flammes de la romance peuvent s'éteindre. Vous êtes d'accord? Vous savez que ça arrive des fois, souvent. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour ranimer les flammes dans un mariage? Il faut s'en souvenir. Qu'est-ce que j'ai fait au début? Il faut peut-être que je fasse les mêmes choses. Amen? Parce que les hommes sont les chasseurs, hein? C'est comme même au magasin, c'est la même chose. Un homme va au magasin et c'est pour aller à la chasse. Qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter une chemise. OK, bon, j'aime ça, on y va. Wow, j'ai conquéri une chemise. Mais les femmes aiment prendre le temps, se promener. Oh, que penses-tu de cela, chérie? N'est-ce pas beau? C'est joli, hein? Oh, et puis c'est une jupe. Oh, regarde ça. Mais je pensais qu'on cherchait une chemise. Oui, je sais, mais c'est joli, n'est-ce pas? Oui, c'est joli, mais on cherche une chemise. On y va. On a quelque chose à conquérir. Les hommes sont comme ça, hein? Ils vont conquérir les femmes, et puis comme c'est comme un chevreuil qui met dans le truck, et puis on y va. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela ce matin? Je ne sais pas. Ça bang, je suis allé à la chasse, j'ai pris une belle femme dans le truck, on y va. J'ai autre chose à conquérir, hein? J'ai gagné ma femme. Tu vas perdre ta femme aussi si tu agis de même, amen? J'ai pas planifié de prêcher tout cela, mais peut-être quelqu'un en a besoin. On a besoin de se repentir et de faire encore les premières œuvres qu'on a faites. Amen. Les choses qu'on a faites au début. Les choses qu'on a faites au début. Les petits gestes d'amour. Même chose avec Jésus. Souvenez-vous de quand vous avez découvert Jésus au début, c'était merveilleux. T'en parlais avec tout le monde. Hein? Peut-être que c'était même tannant. À chaque place que tu allais, tu parlais de Jésus, tu tapais des gens sur la tête avec ta Bible. Et puis, peut-être tu manquais de sagesse, mais écoute, j'aimerais mieux avoir des gens qui manquent un peu de sagesse, mais qui sont encore en feu, que les gens qui sont tellement remplis de tact qu'ils n'en parlent jamais. Est-ce que vous êtes d'accord? On a besoin d'avoir une passion contagieuse pour le Seigneur Jésus. Imaginez qu'est-ce que ça donnerait dans une église. Imaginons quel genre d'église nous serions si tous les membres étaient irrévocablement, ça c'est un mot qui est difficile à prononcer, mais c'est bon, hein? Tous les membres étaient irrévocablement engagés les uns aux autres. Nous sommes une famille, nous sommes un corps. On voit dans les actes des apôtres que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, est-ce qu'on voit, vous voyez, c'est pas juste une affaire de le dimanche matin, ils vont se donner la main une fois pour la semaine. Non, ils vivaient vraiment la vie familiale. Ils étaient en amour avec Jésus et ils étaient en amour les uns avec les autres. Ça, c'est une église, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on est supposé de vivre dans une famille nucléaire, on dirait, vous comprenez l'expression nucléaire, c'est-à-dire que dans une famille avec père et enfant, père, mère, enfant, ou mère et enfant, aujourd'hui il y a tellement de familles qu'il n'y a pas les deux parents à la maison, on comprend cela. Mais dans une famille, on est supposé de s'aimer, que ça soit chez nous, que ça soit à l'église, dans une église locale. Mais c'est aussi vrai concernant les autres assemblées. On devrait avoir un engagement et un amour pour les autres églises dans notre ville, dans la province et dans le monde entier. Amen. Je suis content. Il y a plusieurs d'entre vous. Vous êtes allés au déjeuner d'espoir avec l'église baptiste hier. Et merveilleux. Je suis tout à fait d'accord. Et j'étais là le mois avant. Je vais aller encore dans le futur. On travaille ensemble. Nous sommes une seule famille. Amen. Ce n'est pas une question de dénomination, de confession, c'est une question de faire partie de la grande famille de Dieu. Alléluia. Mais on a besoin d'un engagement. On a besoin de se protéger les uns les autres. On a une tendance, comme être humain, d'avoir les offenses et de commencer à critiquer les uns les autres. N'est-ce pas vrai? Mais il ne faut pas. faut pas. Il faut vraiment s'encourager. J'ai entendu une histoire. J'ai lu une histoire l'autre, peut-être il y a 2 mois, juste après le Super Bowl aux États-Unis. Parce que j'aime les sports aussi, mais je ne suis pas maniaque, mais j'aime le football. Mais je lisais quelque chose. Il y avait un journaliste qui écrivait quelque chose à propos du Super Bowl, mais il est allé à une partie de Super Bowl dans un restaurant quelque part avec un écran géant. Il y avait tout le monde qui était là pour célébrer. Mais il a remarqué qu'il y avait un groupe de personnes, de jeunes hommes qui sont rentrés, tout le monde avec les cheveux courts, ils sont assis à une table à part et ils commençaient à jaser ensemble. Il s'était curieux parce qu'il n'était pas tellement intéressé au match de football. Donc il s'approche de la table, il pose la question, « C'est quoi que vous faites ici? » Ils ont dit, mais nous sommes dans le militaire. Ils étaient les marines, les soldats marines. Ils ont dit que c'était en San Francisco. Ils ont dit, demain matin, on part pour Irak ou Afghanistan, je pense. C'était Afghanistan ou quelque part dans le Moyen-Orient. Ils ont dit, demain matin, on part. Et, pour aller à la guerre, vraiment. Donc, ils commençaient à jaser, mais qui penses-tu qui va gagner le Super Bowl? Ils ont dit, mais franchement, un soldat a répondu, tu sais, pour dire la vérité, je ne suis pas trop intéressé au sport. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Eux autres, ils vont chialer et se plaindre parce qu'ils ne sont pas payés assez, parce que 5 millions ou 16 millions, ce n'est pas assez. Hein? Eux autres, ils veulent être payés plus que 16 millions pour jouer en jeu. Moi, je suis payé 14 000 par année. 14 000 $ par année, pas pour jouer, mais pour prendre une balle. Et vous savez, c'est quelque chose, hein? Mais il a regardé, il commençait à jaser, il dit, tu vois la personne à côté, juste en face de moi? Je ne l'ai même pas connue avant hier soir, mais il y a une chose que je sais. Lui, il est prêt à mourir pour moi. Lui, il prendrait une balle pour moi si nécessaire. Et est-ce que vous voyez de quoi je parle aujourd'hui? On voit les soldats qui sont dévoués à leur mission et qui sont dévoués les uns aux autres. Ils se sont entraînés ensemble, ils se sont préparés ensemble. Mais il y a quelques personnes que, même s'ils ne se connaissent pas avant, ils savent, moi je suis dans le militaire, toi tu es dans le militaire, et ça se peut qu'un jour bientôt, nous serons sur le même champ de bataille et il va falloir que je compte sur toi. Et tu vas être obligé de compter sur moi et tu peux avoir confiance. Parce que je vais être fidèle. Amen. S'ils sont capables d'avoir une telle attitude dans le militaire, à combien plus fort raison devrions-nous dans l'armée de Dieu? On devrait avoir la même attitude. Je devrais être capable de rencontrer n'importe quel chrétien de n'importe quelle église et être capable de dire, tu le vois, je ne l'ai même pas connu avant hier, mais une chose que je sais, il serait prêt à donner sa vie pour moi. Parce que nous servons le même maître, nous connaissons le même Seigneur. Nous sommes dans la même famille. Amen. C'est ça que ça va prendre dans ces derniers jours. Amen. Fini le placotage et tous les murmures. Fini ça. Nous avons une mission. Nous sommes vraiment à la guerre spirituelle. Il y a un combat spirituel devant nous. L'ennemi est réel et il tire les vraies balles. Il faut que je sois prêt à vous protéger et j'aimerais savoir que vous êtes prêt à me protéger aussi. Amen. Ensemble, on va de l'avant. Donc, troisième chose, imaginons quel genre d'église nous serions si tous les membres étaient prêts à payer n'importe quel prix pour atteindre le monde avec l'Évangile et réaliser la vision et la mission de l'Église. On voit en Actes chapitre 2, verset 42, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient, tout le monde y persévérait. Alléluia. Laisse-moi vous dire une chose, Dieu nous a donné une mission. Il nous a donné une mission. Et si nous allons, c'est de payer n'importe quel prix, ça c'est la réponse qu'on a demandé. Si nous allons faire ce que Dieu veut qu'on fasse, il faut que nous développions une passion contagieuse. Il faut que nous soyons irrévocablement engagés les uns aux autres. Et il faut que nous soyons prêts à payer n'importe quel prix. Jésus a dit, suivez-moi, je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Amen. Et Pierre était pêcheur, dans plusieurs sens. Il était pêcheur et pêcheur aussi. Il pêchait. Vous savez de quoi je parle. Mais Jésus a dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc il a laissé le filet, il a laissé le commerce, et il a suivi Jésus pendant 3 ans, et après ça, il était dans le ministère, il gagnait les âmes pour le Seigneur Jésus. Et Jésus nous donne cette illustration que gagner les âmes, c'est comme attraper les poissons. Que ce soit avec un filet, un groupe, que ce soit à la ligne, la pêche à la ligne. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la pêche à la ligne ici? Moi, je l'aime. Il n'y a pas grand monde qui aime la pêche à la ligne, mais ce n'est pas grave. Vous aurez aussi elle quand même. Non, non. Non, je plaisante. Moi, j'aime ça. J'aime surtout la pêche à la truite, par exemple. Hein? Les belles rivières avec les eaux claires et propres. Et c'est merveilleux. C'est pas une chose que je fais souvent. Ça fait un couple d'années que je ne l'ai pas fait. Mais j'aime ça. Mais j'ai pensé à cela une journée. Parce que mon père, quand j'étais dans la Missouri, souvent, on se réveillait à 3h30 du matin, faisait encore noir, on ferait au moins 2, 3, des fois 4 heures de route dans la noirceur, hein? Et peut-être pendant 2 jours avant le départ, on achetait toutes les choses nécessaires, on préparait les cannes à pêche, tous les apports, on préparait tout comme il faut, et... On rêvait à ça, on pensait à ça, on pourrait imaginer vraiment les gros poissons et toutes les choses, les gros poissons, les choses qu'on voulait attraper. Mais puis à 3h30 le matin, on se réveille, on part, on fait des heures de route et puis il fait froid des fois, on va aller dans les eaux jusqu'aux épaules, presque dans les eaux froides pour trouver la bonne place pour attraper le poisson. Et un jour, le Seigneur m'a dit, ça c'est bien beau, c'est merveilleux que tu fais ça, j'ai rien contre ça, mais tu devrais avoir autant d'engagement, tu devrais être prêt à payer au moins le même prix pour gagner une âme au Seigneur. Amen? Combien de nous, si le Seigneur te parlerait en disant, je veux que tu prennes ton auto et que tu vas à Victoriaville parce qu'il y a quelqu'un là qui a besoin de connaître Jésus. Est-ce que tu serais prêt à prendre l'auto et d'y aller? Hein? Peut-être s'il dirait, il y a quelqu'un qui habite à côté de toi, à la prochaine porte, je veux que tu y ailles. Est-ce que tu serais prêt à aller? Non, mais peut-être 3000 kilomètres pour aller pêcher dans le Grand Nord, oui, pas de problème, mais aller à côté, non. Vois-tu, il y a quelque chose, on a besoin de savoir, il y a un prix à payer si on va gagner les âmes pour le sang de Jésus. Amen. Si nous allons faire, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Et moi, j'aime gagner les âmes. J'aime attraper les truites arc-en-ciel. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est beaucoup plus de fun d'attraper une âme pour le Seigneur. Amen? Mais on a besoin de payer le prix. On a besoin d'investir toute notre vie. Et j'avais d'autres choses à dire ce matin, mais je pense que je vais le sauver pour la semaine prochaine. Je vais prier là-dessus. Je sais qu'on va commencer une série sur les fins de temps. Je planifie peut-être de le faire la semaine prochaine, mais ça se peut que j'ai encore une autre semaine à faire sur prendre notre place dans l'histoire et après on va commencer sur la fin de temps. Priez pour que la volonté du Seigneur soit faite. Moi, je veux me laisser conduire par l'Esprit. Et vous? Parce que je sais qu'il y a des choses qui s'en viennent pour nous ici, dans cette église, qui sont merveilleuses. Cette année, c'est une année merveilleuse, mais 2004 va être encore mieux. Et on a besoin de saisir plusieurs choses dans les mois qui s'en viennent pour qu'on soit vraiment prêt à aller à la prochaine niveau, de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Amen. Je vais juste finir en disant ceci. Vous dites, oh, ça c'est un beau rêve. Une église où tout le monde a une passion contagieuse, tout le monde est irrévocablement engagé les uns aux autres et tout le monde est prêt à payer le prix. Oh, mais ça, est-ce que ça peut être vraiment le cas? Laisse-moi vous dire, ça commence une personne à la fois. Est-ce que vous avez une passion contagieuse? Est-ce que vous êtes engagé à vos frères et vos sœurs? Et est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Si vous êtes prêt, posez-vous la question. Si tous les membres de l'église étaient comme moi, quel genre d'église est-ce que nous serions? Amen? Si tout le monde était comme moi, si tout le monde avait le même engagement que moi, quel genre d'église est-ce que nous serions? Et c'est comme ça que nous allons avoir la victoire. C'est comme ça que nous allons voir la multiplication de l'église comme on a vu aujourd'hui. Amen? On va se lever debout. J'ai pris plus de temps aujourd'hui que d'habitude, mais c'est bon. Parce qu'on veut que le Seigneur fasse qu'est-ce qu'il veut. C'est pas mon église, c'est son église et c'est notre église. Amen. Comment on dit, c'est son église et c'est notre église. Alléluia. On va prier pour terminer ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Père Céleste. Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, parce que on a une œuvre importante à faire. Tu veux ajouter à l'Église chaque jour ceux qui vont être sauvés. Ce n'est pas juste les pasteurs, les évangélistes qui vont faire l'œuvre du ministère, mais c'est tous les membres qui vont faire l'œuvre du ministère. C'est notre Église. Seigneur, nous te remercions parce que nous croyons, je crois, Seigneur, que tu parles au cœur ce matin. Il y a des personnes ici qui ont saisi des choses, qui ont compris des choses même ce matin. Des choses des fois subtiles mais profondes. Père, au nom de Jésus, nous t'aimons. Et nous pouvons rêver d'une église où tout le monde fait leur part. Seigneur, nous savons que ce n'est pas notre volonté, mais c'est ta volonté. C'est ton œuvre, c'est toi qui bâtis ton église. Et les portes du séjour de mort ne préventeront point contre elle. Seigneur, que nous tombions dans l'amour avec toi comme jamais auparavant, que nous fassions les œuvres qu'on a faites au début de notre relation avec toi. Que nous soyons comme ces jeunes militaires, Seigneur, que nous soyons prêts à prendre une balle, Seigneur, pour les autres. Que nous soyons prêts à mourir, donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, que nous soyons prêts à payer n'importe quel prix pour faire la volonté de Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Juste avec tous les yeux fermés, à tous les dimanches, j'aime donner une occasion pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus de l'accepter comme Seigneur et Maître. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui vous dit dans votre cœur, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité des morts. Mais je ne suis pas sûr à 100% d'avoir une place réservée pour moi au ciel. Laisse-moi vous dire que vous pouvez ce matin donner votre vie à Jésus. Vous pouvez naître de nouveau, avoir une vie nouvelle, commencer à zéro, vos péchés seront effacés, lavés, vous serez blanc comme la neige, recommencer une vie nouvelle à vraiment propre, comme si vous n'avez jamais péché de votre vie. La vie éternelle, c'est un don gratuit que vous pouvez recevoir par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne vous invite pas à devenir membre de la vie comblée, ce n'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qui compte, c'est de faire partie de la famille de Dieu, de faire partie de Jésus-Christ. L'Église est beaucoup plus grande que la vie comblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai besoin de le faire. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, il y a une autre personne. J'ai déjà parlé avec... ces deux personnes, on va garder les yeux fermés, je ne veux pas embarrasser tout le monde. Je crois que vous êtes des gens qui ont déjà, au moment donné, donné votre cœur à Jésus, mais peut-être c'est un besoin d'une reconsécration dont vous avez besoin. On va tous prier cette prière de consécration ensemble, et j'invite tous ceux qui ont levé la main de faire cette prière avec nous. Père Céleste, je m'approche de toi, et je déclare et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Maître. Je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Je veux avoir une passion contagieuse pour toi, Seigneur. Je suis engagé, Seigneur, à marcher dans l'amour avec mes frères et mes sœurs. Et je suis prêt à payer n'importe quel prix pour faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah.